Une lettre sur Mozart. Le prince Louis-Eugène de Wurtemberg à Monsieur Jean-Jacques Rousseau. Note 1. Le prince de Wurtemberg, durant son séjour à Lausanne, entretint une correspondance avec Jean-Jacques Rousseau, alors à Mottier. Admirateur inconditionnel de l'Émile, le prince priait humblement son correspondant de devenir par lettre interposée le précepteur de sa fille Sophie, née en juin 1763. Rousseau accepta et son joug fut sévère pour le père comme pour la fille. Il se fit aussi à l'occasion le censeur des médiocres essais poétiques du prince. Ce dernier, malgré tout, ne ménagea pas sa peine pour tirer l'écrivain des difficultés et des persécutions que lui valurent l'apparition de l'Émile. La correspondance entre les deux hommes s'interrompit en novembre 1765, moins d'une année avant l'arrivée de Mozart chez Louis-Eugène de Wurtemberg. C'est du moins ce que l'on croyait avant la découverte de cet inédit dont la publication, nous l'espérons, pourra susciter quelque intérêt. Montrion, le 25 septembre 1766. Vous savez, monsieur, et le plus vertueux des hommes, combien vos disgrâces ont accablé mon cœur et de quelle douleur me fut votre exil. La nouvelle de votre sûr asile en Angleterre auprès de l'excellent monsieur Hume tempère cependant la tristesse que me cause votre éloignement. L'égoïste bonheur de vous savoir auprès de moi, comment ne le céderait-il pas à la joie de vous connaître délivré de vos ennemis? Je prends la liberté, monsieur, de vous écrire à nouveau, vous à qui je dois tout ce que je sais d'humanité. Mais ce n'est point pour vous entretenir de rechef de notre petite Sophie, qui a désormais passé l'âge de 3 ans et qui, merveilleusement, grandit par la vertu de vos préceptes. Je n'aurai rien à vous en dire, sinon que ces jours sont comme autant de pages du plus noble et du plus vertueux des ouvrages. Note 2, il s'agit d'une allusion à l'Émile, bien sûr. Et que sa mère et moi-même ne cessons de vous en rendre grâce. C'est cependant d'un autre enfant que je viens vous parler. Il m'apparaît que ce prodige musicien ne vous est pas inconnu. Note 3. Le prince fait peut-être allusion au petit garçon de 7 ans capable de prodiges sur le clavecin évoqué par Rousseau dans une réflexion sur les aptitudes physiques et l'habileté manuelle des enfants. Il a dû quitter l'Angleterre peu de temps avant votre arrivée dans cette nation et le bruit de son génie y persiste sans doute. En tout état de cause, monsieur, ce m'est un devoir de vous le faire connaître. L'honneur m'étant échu lors du passage de cet enfant à Lausanne, de le recevoir et de l'entendre, accompagné de son père et de sa sœur aînée, dans ces salons de Montrion où je regretterai sans cesse de n'avoir pu accueillir le meilleur de tous les hommes. Imaginez, monsieur, un enfant de 10 ans, toujours grave et toujours rieur, timide mais impérieux, un enfant qui ne se préoccupe de rien et porte avec lui son génie comme d'autres font leurs boucles blondes. Lorsque les adultes se récrient d'admiration, il se tourne aussitôt vers son père et vers Dieu pour leur remettre tout hommage. N'allez pas croire, monsieur, que pour autant il ne sache point ce qu'il fait et se comporte comme un petit automate à merveille. Sa maîtrise de l'art est supérieure à celle de tous les adultes. Il est capable de jouer au clavecin et au violon les partitions les plus difficiles des plus grands maîtres sans même les connaître au préalable. Mais cela n'est rien encore. Et ne témoigne guère que de cette habileté mécanique que votre sublime ouvrage, en son deuxième livre, reconnaît à tous les enfants. Ah, monsieur, il est autre chose en ce petit Wolfgang Mozart, autre chose qu'à la vérité je ne puis comprendre, et dont je venais presque à redouter qu'il ne trouble à force de lumière la leçon non moins lumineuse de vos préceptes. C'est aussi pour cela que je viens vous écrire, à l'avance persuadé de mon erreur, et sachant que vous me montrerez la vérité, c'est-à-dire la vertu. Notre Sophie ne fut point la dernière à subir le charme de ce génie de 10 ans. Chose étonnante, pour une fillette de 3 années, Wolfgang Mozart ne devait-il pas apparaître adulte, ou peu s'en faut? Point du tout, et cela d'autant moins qu'avant et après son concert, il n'eut rien de plus pressé que de jouer avec elle, la poursuivant plaisamment entre les fauteuils, lui bâillant force grimaces qui la jetaient dans de grandes stupeurs suivies de grands rires. Notre Sophie savait que Wolfgang était un enfant, comme elle, et c'est pourquoi elle le révérait bouche bée, non moins sensible au miracle que nous autres, ses parents. Quel miracle ! Sa musique, non point en celle qu'il a jouée, mais celle qu'il a composée. Peut-être vous ai-je confessé qu'il m'arrive, à l'exemple de notre Frédéric le Grand, de pratiquer l'art de la flûte. Euterpe ne m'est point tout à fait ennemi, au contraire de Calliope ou Melpomène, mais il n'importe. Je sais d'abord qu'en m'adressant à vous, monsieur, je m'adresse à un maître dans la théorie comme dans l'exercice de l'art musical. Cet enfant de 10 années a écrit 16 sonates, 4 symphonies et 60 morceaux divers. Le désir de composer le tient si vivement qu'il lui arrive en pleine nuit de quitter sa couche afin d'essayer au clavier dans l'obscurité telle mélodie qu'il occupe. Et son père ne s'oppose pas à ce caprice, allant même jusqu'à l'encourager. Ce père, hélas, semble trop décidé à ne rien laisser perdre du génie de son fils, et je crains, monsieur, que vous n'approuviez cette attitude, car les sollicitations excessives du corps peuvent en ruiner la santé, et celle de l'âme par surcroît. Après le premier des deux concerts, si grande était ma stupeur, que je ne pus me défendre d'une sorte de méfiance. Et plutôt que de laisser libre carrière à la seule admiration, j'interrogeai. Je voulus qu'on me nommât les maîtres de ce Wolfgang. Cet enfant n'était-il pas tout bonnement un prodige de mémoire ? Je questionnai Léopold Mozart, son père et précepteur. C'est avec bonne grâce et sans se douter d'une méfiance dont je concevais quelque honte qu'il répondit à ma curiosité. Il faut avouer que le bonhomme, s'il n'est pas dépourvu de science et de dévouement, apparaît singulièrement privé de tout génie et même de tout talent, comme en témoignent ses trop nombreuses compositions, que vous condamneriez avec autant de juste sévérité que vous avez censuré mes vers. Léopold Mozart, cependant, n'a pas caché que son fils avait bénéficié d'autres exemples que le sien. Hélas, il ne parla point de votre devin de village, peut-être à dessein, mais il nomma Chrétien Bach, l'un des fils du Sébastien Bach, jadis apprécié de notre prince Frédéric. Wolfgang lui-même, présent dans le salon durant cette conversation, tout occupé à poursuivre non plus ma fille déjà couchée, mais le chat Angora, intervient pour ajouter le nom de Johann Schobert, dont il affirma qu'il l'aimait et l'admirait infiniment du jour où celui-ci lui avait offert à Paris des sonates de sa composition. Le bonhomme Léopold parut contrarié, mais ne voulut point contredire son fils, qui avait déjà quitté la pièce, le chat sur l'épaule. Je me suis alors fait la réflexion que l'enfant devait avoir adopté la manière de ces deux compositeurs. On dit de Chrétien Bach qu'il sait chanter, on dit de Johann Schobert qu'il sait pleurer. Wolfgang Mozart imite donc le chant de Chrétien et les pleurs de Johann. À l'âge où l'on est capable de contrefaire toute chose, et jusqu'au sentiment sincère, cet enfant qui n'est que rire et larmes, tout habité par la lumière de Chrétien Bach et par les ombres de Johann Schobert, les voit mêlées dans l'innocence de son cœur. Et la profondeur de sa musique, c'est la profondeur des âmes d'autrui, reflétée dans le clair miroir de son âme puérile. Or, je dois confesser que cette explication de son génie s'est révélée insuffisante, et pour deux motifs, dont l'un pourra vous paraître sujet à caution, mais dont le second assurément ne l'est point. Voici, monsieur, mon premier motif. Après le départ de nos hôtes, que j'ai accompagnés jusqu'à leur diligence, afin de leur témoigner mon admiration et mon dévouement, qu'ils méritent presque à l'égal de vous-même, je me suis fait apporter des œuvres de Chrétien Bach pour le clavecin et d'autres de Johann Schobert pour le même instrument. Ce sont là, sans aucun doute, et vous en jugeriez ainsi, des ouvrages de qualité. J'y ai reconnu la lumière et l'ombre de Wolfgang Mozart. Et pourtant, j'en atteste, moins de lumière et moins d'ombre. Ou plutôt, Chrétien Bach me proposait l'aurore, Schobert me révélait le crépuscule, mais les morceaux de Wolfgang Mozart, sous ce soleil levant et couchant, me donnaient le paysage tout entier que je vois de ma fenêtre. Ils me donnaient ce lac sublime. Si j'ose ainsi vous l'écrire, ils me donnaient les bosquets de Claran et jusqu'à la présence de mon épouse et de ma fille auprès de moi sur la terrasse. Me comprenez-vous, monsieur, cet enfant dans sa musique n'exprimait point seulement des sentiments, il exprimait un monde où je me voyais et voyais les miens, où je nous sentais vivre avec reconnaissance et sans peur de la mort. Mais peut-être m'étais-je trompé. D'autres auditeurs plus savants que moi et qui compareraient les mêmes musiques donneraient peut-être l'avantage à Bach ou Schobert au détriment de mon Wolfgang. Mais voici qui n'est plus réfutable et que je ne découvris qu'après le départ du céleste enfant. L'une des pièces qu'il nous joua et qui, plus que toutes les autres, fit monter les larmes à mes yeux, je ne sais Dieu pourquoi, alors même que mon épouse me souriait et que ma fille, toute tendue de passion, écoutait, assise sur mes genoux, cette pièce étonnante. J'appris que Wolfgang l'avait écrite voilà 3 ans déjà, alors qu'il n'était âgé que de 7 années et n'avait pu connaître ni l'exemple de Bach, ni l'exemple de Schobert. Note 5. Le prince fait probablement allusion à l'andante inachevé en si bémol que Schell 9b, sans doute composé entre juin et octobre 1763, dans lequel Viseva et Saint-Foy n'hésitent pas à percevoir des accents annonciateurs de la flûte enchantée. Votre sublime ouvrage, Les Mille, est gravé dans mon cœur. Il ne faut point se presser, écrivez-vous, d'enseigner la musique aux enfants. Comme vous condamnez l'étude des livres, vous condamneriez les études musicales acharnées auxquelles le bonhomme Léopold a décidé de soumettre son fils. Enseignez la musique comme vous voudrez, écrivez-vous, pourvu qu'elle ne soit jamais qu'un amusement. Et n'affirmez-vous pas à propos du chant des enfants qu'il n'a jamais d'âme. Ah, monsieur, avec l'infini respect que je vous dois, avec l'amour filial que je vous porte, j'ose m'écrier, puissiez-vous entendre Wolfgang Mozart comme j'ai pu le faire en ce mois de septembre 1766. Vous qui condamnez à juste titre les prétentions des parents à exhiber des enfants prodiges, vous ne pourriez douter, pas plus que vous ne doutez du Créateur, qu'il est parfois sur terre, ou qu'il fut une fois, de par la grâce du ciel, un enfant véritablement divin et qui n'est point pour autant un adulte avant l'âge. Car vous l'entendriez comme moi dans le morceau de ses 7 ans. L'inquiétude et la douleur y abondent, mais la grâce y surabonde. Étrange et rare profondeur où l'on respire mieux qu'à la surface du monde. Cette musique éprouve la souffrance et la guérit. Un enfant seul peut-être, mais quel enfant est capable de vivre et de faire vivre simultanément ces états que les adultes ne peuvent éprouver que l'un au détriment de l'autre. Certes, vous nous avez appris que le bonheur peut pleurer. Ô Saint Preux, ô Julie, cet enfant, lui, nous apprend, comme en se jouant, avec ses sourcils froncés, que la douleur peut sourire, qu'elle est le sourire même. Mais pourquoi chercher à vous opposer ce prodige ? Qui serait assez insensé pour croire que les principes d'éducation doivent se régler sur un être exceptionnel, peut-être unique en ce monde ? En admettant que le petit Mozart soit ce que j'en dis, cette divine exception confirme votre règle. Il est mauvais pour tout enfant d'apprendre à lire ailleurs que dans le grand livre de la nature, néfaste de pratiquer la musique autrement que par délassement et par jeu. En outre, si ce Wolfgang est vertueux et ne se prévaut point des dons de la Providence, saura-t-il se maintenir dans ses dispositions lorsqu'il aura pris l'habitude funeste de voir à ses pieds les cours de toute l'Europe ? Lorsque son cœur commencera d'être troublé par des hommages d'un genre nouveau, ceux que le désir et la malice inspireront aux femmes de son entourage, ne cherchera-t-il pas alors à faire de ses talents un usage séducteur? Ne perdra-t-il pas toute innocence? Monsieur, votre sagesse a toujours placé la vertu plus haut que le talent. Celui-ci ne doit jamais être qu'une occasion d'exercer celle-là. Quel homme d'honneur et d'honnêteté pourrait vous donner tort? À ce point de ma lettre, et pour m'assurer davantage de l'erreur qu'il y aurait à douter de vos préceptes, fût-ce à cause de cet enfant, je vous dois un récit. Je le tiens d'une dame des plus respectables, comme il en est tant ici, qui, à l'exemple de toutes les personnes de qualité, est accourue à Morion pour nos 2 concerts de ce mois de septembre. Cette personne s'appelle Louise Élisabeth de Saconnet. Parée de tous les dons de la sagesse et de la beauté, elle s'est récemment mariée, mais a connu le chagrin l'année dernière de perdre l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Le bruit de sa vertu vous est peut-être parvenu, car c'est Madame de Saconnet qui, voilà quelques années, alors qu'elle était encore une toute jeune fille, avait eu le courage d'affronter votre plus vil ennemi, alors installé dans les murs de Lausanne. Note 9, on aura reconnu Voltaire, que Louise-Élisabeth avait en effet tenté, en novembre 1757, de convertir en lui rendant visite à sa résidence de Montrion, celle-là même où le prince écrit sa lettre. Or, plusieurs jours après le 2e concert, je la croisai dans la rue de Bourg, où j'avais quelques rendez-vous. Je voulus partager avec elle mon saint enthousiasme, qui n'était point retombé, d'autant moins que le petit Mozart m'a fait l'honneur insigne de composer pour moi des solides flûtes, et qu'il ne se passe de jour et d'heure où je ne les travaille et m'y trouve heureux. À mon étonnement, elle parut contrariée, scandalisée, et même accablée, sans parvenir à m'en dire la raison. Je finis à force représentation à lui tirer quelques bribes dont je pus conclure à ceci. Après le concert, alors que chacun courait dans les jardins et qu'elle-même s'y promenait à l'écart, prenant quelque distance avec la société, elle buta sur le petit Wolfgang, lequel, contre une haie, dans une posture accroupie, accomplissait ce dont il est honnête de ne point parler. Loin d'être saisi de honte, l'enfant aurait éclaté de rire et se serait mis debout tel qu'il était, pour tenir des propos insensés, chantant la louange indifférenciée et scandaleuse de tout ce qui, agréable ou répugnant, mélodieux ou infâme, franchit les limites de notre humaine enveloppe pour se déposer dans le monde. Assez ébranlé, je l'avoue, je fournis tout de même à la jeune femme, que l'indignation faisait encore rougir, un argument qui me parut de nature à fléchir sa sévérité. L'excellent et rigoureux docteur Tissot, dans une étude où la science le dispute à l'esprit, loue les vertus morales de Wolfgang Mozart dans les termes les plus décidés, soulignant que sa douceur, sa modestie, sa piété filiale sont à la mesure de ses talents. Cette louange éclairée va paraître incessamment dans l'Aristide, journal de la société morale que j'ai l'honneur d'avoir fondé et encouragé à Lausanne. Le nom respectable Samuel Auguste Tissot parut un instant mitiger la colère de mon interlocutrice. J'eus cependant le tort d'ajouter que le génie, s'il n'était point toujours garant de toute vertu, pouvait peut-être excuser quelques vices, en particulier chez un enfant. Et quel enfant de 10 ans, pour faire pardonner ses péchés, aurait été capable de composer un Kyrie ? Madame de Saconay me rétorqua, « Pardonnez-moi si je dois faire effort pour accepter ici et maintenant cette vérité juste et sévère. Pardonnez-moi si à mes yeux le petit Mozart demeure un pur don de Dieu, le signe mystérieux que la souffrance d'être et le bonheur de vivre ne font qu'un, lui dont les mélodies nous disent, étrange et précieux mystère, que nous pouvons aller vers la douleur avec confiance. Madame de Saconay me rétorqua en fier témoin de votre intransigeance, « Les œuvres ne donnent pas la grâce, monsieur, et le génie n'est jamais une excuse. »
C'était Étienne Barillier, enregistré le 23 avril 2009 à Solors.